Le cyclone Chido a touché Mayotte. On déplore provisoirement au moins 2 morts et des dégâts considérables. L'archipel est dévasté et le bilan humain risque de s'alourdir. François Bayrou, le nouveau Premier ministre, participait dès ce matin à une réunion de crise sur le cas de Mayotte, tout en poursuivant ses consultations afin de former son gouvernement. Dans le Pacifique, instabilité politique chez plusieurs de nos voisins, au Vanuatu, au Tonga ou encore aux îles Salomon. À Nouméa, pas de féerie cette année, mais un marché de Noël qui a ouvert ses portes hier. Il animera le centre-ville jusqu'au 23 décembre prochain. La ministre des Affaires étrangères vietnamienne et l'ambassadeur du Vietnam à Paris étaient à la rencontre de la communauté vietnamienne de Nouvelle-Calédonie hier au foyer de Tina. Le sport en natation, un podium pour Maxime Grousset au championnat du monde en petit bassin. Il a terminé deuxième de la finale du 100 mètres papillon. Et en Calédonie, le dernier concours de pêche au gros de l'année avec un marlin de 95 kilos pris sur le navire Dark Knight, la plus grosse prise de l'épreuve. Bonjour et soyez les bienvenus dans Info Weekend. À la une de l'actualité, le cyclone Chido qui a touché Mayotte. Des rafales de vent allant jusqu'à 220 km/h ont tout emporté sur leur passage. Déjà 2 victimes à déplorer et le bilan risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Les vents sur place sont toujours violents. L'alerte violette, le plus haut niveau d'alerte à Mayotte, a été levé il y a seulement quelques heures. Les dégâts sont donc très importants. Le point avec Wilfried de Villers pour Europe 1.
Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit le vent balayer Grande Terre. L'île principale de Mayotte est tout emportée. Des arbres, des poteaux électriques et d'innombrables toitures. À Mayotte, de nombreuses habitations sont fragiles. Des logements, des cases faites de tôles qui n'ont pas résisté à la puissance du vent, comme en témoigne cet habitant qui a filmé ce qui reste de sa maison après le passage du cyclone Chido.
Chido a tout pris. J'ai plus de maison. Priez pour nous, s'il vous plaît.
À Mamoudzou, la capitale de Mayotte, le bidonville de Kaweni, perché à flanc de colline, n'est plus qu'un amas de tôles et de morceaux de bois. Dans le centre-ville, situation quasi similaire, comme le raconte à Europe 1 Bruno Garcia, propriétaire d'un hôtel situé à 2 pas du port de Mamoudzou.
La situation elle est très claire, elle est apocalyptique, il n'y a plus rien. Donc quand je dis apocalyptique, le mot n'est pas surdimensionné. Et l'hôtel, il n'y a plus rien à l'intérieur, ça a soufflé les chambres. Il n'y a plus rien dans les chambres, tout est détruit, tout est cassé. On a l'impression qu'il y a une bombe atomique qui est tombée et qui a soufflé toutes les maisons, tout ce qu'il y avait dans Mamoudzou.
Alors difficile pour l'instant d'établir un bilan humain précis. On sait que 4 personnes au moins ont été tuées ce matin, dont 2 à Petite Terre, l'une des 2 îles de l'archipel. Ce soir, quelques 15 000 foyers seraient toujours privés d'électricité dans l'archipel où l'on compte donc 320 000 habitants.
Wilfried de Villers pour Europe 1. 1600 policiers et gendarmes ont déjà été déployés sur place. Des renforts de la sécurité civile doivent être envoyés, près de 800 personnels, ainsi que du fret humanitaire, selon le ministre démissionnaire des armées, Sébastien Lecornu. Le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, a pris la parole.
Après cette catastrophe que vient de connaître Mayotte, je crains le pire sur certaines parties de Grande Terre. Nous nous sommes préparés dans la gestion de crise, mais tout reste à faire. Nous allons devoir porter secours à nos plus proches, faire en sorte de maintenir l'ordre public, faire en sorte que depuis la métropole et d'ailleurs se posent des avions et arrivent des bateaux sur le port pour pouvoir apporter tout ce dont Mayotte va avoir besoin, de la nourriture, de l'eau, des hommes et des femmes qui vont venir nous aider, des médecins. Je mets tout en œuvre à partir de maintenant pour atteindre ces objectifs et vous apporter des réponses que j'espère les plus rapides possibles.
Et face à la gravité de l'événement, le nouveau Premier ministre François Bayrou participait dès ce matin à un conseil de crise. Il s'est exprimé il y a quelques minutes à la sortie de cette réunion d'urgence. On l'écoute.
Tout le monde a bien compris ce qui se passait. Un cyclone d'une violence inattendue. Des vents à plus de 200 km/h, des équipements publics très endommagés ou détruits, à la préfecture, à l'hôpital, à l'aéroport, rendant impossible les très grand nombre de liaisons aériennes. Et des risques très graves, très violents encourus pour les habitations et aussi pour les habitations précaires, bidonvilles, notamment occupées par les irréguliers. Ce qui fait que le bilan, pour l'instant, n'est pas très facile à faire.
Voilà pour cette intervention de François Bayrou, le Premier ministre. Après cette réunion de crise, l'hôpital principal de Mamoudzou a été endommagé. Un hôpital de campagne va être installé. La tour de contrôle de l'aéroport international de Mayotte a été détruite, mais le terminal aéroportuaire reste praticable en journée, selon le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a également annoncé déjà de nombreuses mesures.
On a une entière mobilisation, c'est une situation qui est dramatique. Qui est absolument exceptionnel, mais l'ensemble des services de l'État se tient pour porter secours à nos compatriotes mahorais. J'ai eu, et je pense le Premier ministre aussi, à plusieurs reprises, le Président de la République qui se tient heure par heure aussi informé de la situation.
Notez que le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, attendu en Corse pour préparer la venue du pape ce soir, a retardé son départ de Paris afin de participer également à cette réunion de crise au sujet de Mayotte. Il a annoncé que cette cellule se réunira à deux fois par jour pour préparer les opérations de secours dans l'archipel mahorais. Le nouveau Premier ministre, déjà en réunion de crise donc, et en parallèle, François Bayrou doit poursuivre ses consultations afin de former le futur gouvernement. Il a échangé notamment avec le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, le président du Sénat, Gérard Larcher, ou encore le gouverneur de la Banque de France. L'objectif de ces rencontres, c'est de prendre connaissance dans le détail de la situation politique et financière de la France avant d'agir. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Il avait promis, à peine nommé, un gouvernement compact, dominé par des personnalités d'expérience. François Bayrou veut aller vite, d'où ses échanges avec les présidents de chaque chambre ainsi que les principaux représentants d'institutions financières. L'objectif, c'est de dresser une feuille de route qui servira de base à ses futurs ministres. Alors d'où viendront-ils politiquement ? La droite, pour l'instant, demande des gages avant d'éventuellement donner son accord pour entrer au gouvernement. Nous ne renierons rien, mais notamment en garde François-Xavier Bellamy, alors que Bruno Retailleau a lui été reçu vendredi soir à Matignon pour tenter d'en savoir plus sur le plan de l'ancien haut-commissaire. À gauche, si les socialistes ont déjà dit qu'ils n'entreraient pas au gouvernement, ils posent deux conditions pour ne pas censurer, le non-recours au 49-3 et une totale indépendance vis-à-vis du RN, une mission comparée à l'ascension de l'Himalaya par François Bayrou lui-même lors de la passation des pouvoirs, mais presque taillée sur mesure pour celui qui appelle depuis plusieurs années au dépassement des clivages.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Rappelons toujours à propos de la nomination du nouveau Premier ministre que Nicolas Metzdorf et Georges Naturel ont signé une tribune dans le journal L'Opinion, Lionel Sabot.
Une tribune co-signée également par 70 élus de divers groupes politiques qui alertent sur la situation économique critique de la Nouvelle-Calédonie. Après les destructions du 13 mai, ils appellent le futur gouvernement de François Bayrou à agir vite pour préserver l'emploi et la stabilité sociale. Les parlementaires demandent l'adoption d'une loi de finances d'urgence et exhortent l'ensemble des forces politiques à soutenir les futures mesures pour le territoire. Il en va de la survie d'un territoire français, rappellent Nicolas Metzdorf et Georges Naturel, co-auteurs de cette tribune parue dans l'Opinion.
Dans l'actualité nationale encore en bref, l'agence de notation américaine Moody's n'a guère laissé à François Bayrou le temps de s'installer à Matignon, en dégradant dans les heures suivantes la note souveraine de la France, au vu, je cite, de la fragmentation politique du pays, peu propice, selon elle, au rétablissement rapide des finances publiques. Moody's a abaissé la note française à double A2, assortie d'une perspective négative.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
L'actualité dans la région Pacifique avec une intense actualité parlementaire au Vanuatu, au Tonga, mais aussi aux îles Salomon, où le Premier ministre Jeremiah Manalé sera confronté demain à une motion de censure. Les explications de notre correspondant Jean-Pierre Zajac.
Cette motion de censure a été présentée par le député d'une des circonscriptions d'Honiara, l'ancien Premier ministre Gordon Darcy Lilo. Elle sera débattue lundi dans un contexte de controverses gouvernementales, d'allégations d'exonération fiscale injuste et de pertes de revenus provenant de l'exploitation minière. La veille de Noël, les 26 membres de l'Assemblée législative des Tonga se réuniront à Nuku'alofa pour élire un successeur à Siaosi Sovaleni, lequel a démissionné de ses fonctions de Premier ministre en début de semaine. Le 14 janvier, enfin, les habitants du Vanuatu se rendront aux urnes pour renouveler leur parlement, lequel a été dissous le mois dernier par le président de la République, Nike Nike Vurumbaravu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et puis en Asie du Sud, à présent, les députés sud-coréens ont voté hier en faveur de la motion de destitution contre le président Yoon Suk-yeol. Ce dernier avait tenté d'imposer la loi martiale le 3 décembre dernier, provoquant une révolte au sein de la Corée du Sud. 204 députés se sont prononcés donc pour la motion de destitution envers le chef d'État sud-coréen. La suite de l'actualité maintenant en métropole. Miss France 2025 sera sacrée ce matin pour nous sur TF1 parmi 30 candidates avec pour la première fois une trentenaire en lice dans le concours. Miss Martinique, âgée de 34 ans. Le jury sera 100% féminin. Le show sera encore une fois animé par Jean-Pierre Foucault. Je rappelle qu'il n'y a pas de représentante pour la Nouvelle-Calédonie cette année dans la mesure où la crise insurrectionnelle n'a pas permis d'organiser le concours sur le territoire en 2024. C'est Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy qui a été désignée pour prendre la place de Miss Nouvelle-Calédonie dans ce concours national à suivre ce dimanche matin pour nous. 7h passées de 11 minutes, une page de publicité avant de voir l'actualité en Calédonie et le marché de Noël de Nouméa qui a pris ses quartiers sur la place des Cocotiers. À tout de suite.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio, aux 4 rue de Sébastopol, vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Jusqu'au vendredi 10 janvier, gagnez un Samsung S24 d'une valeur de 99 000 francs, offert par Connect Multimédia. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Depuis plus de 10 ans à vos côtés, Connect Multimédia, c'est deux points de vente pour plus de confort et une équipe dynamique à votre écoute. Téléviseur, Hi-Fi, téléphonie, objets connectés, smartphone, informatique, tablette, instruments de musique. Connect Multimédia vous accueille à Ducos du lundi au samedi et au quartier Alma du lundi au dimanche. Alors, pour gagner ce magnifique S24, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort, vendredi 10 janvier à 14h. 371 francs par SMS.
RRB, première radio d'information.
La CIDEF au week-end, Michael Juneski.
Les animations de Noël à Nouméa, avec un marché qui s'est installé hier soir sur la place des Cocotiers. Un événement en partenariat avec la Chambre de métiers de l'artisanat, Kélinda Boisco.
Des moments de partage qui rassemblent et que chacun attend avec impatience. Des spectacles gratuits sont proposés au kiosque à musique jusqu'au lundi 23 décembre, chaque soir à partir de 18h. En amont, un marché de Noël artisanal est proposé autour du Grand Sapin. L'occasion de retrouver un marché de Noël artisanal 100% local qui met en valeur le savoir-faire des artisans calédoniens. Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat, souligne que ce marché de Noël a été initié par le maire de Nouméa.
C'est à l'initiative de Madame le maire de Nouméa qui nous a sollicité pour que les artisans puissent avoir un espace pour vendre leurs produits en cette période difficile. Et comme vous le savez, cette année, il n'y aura pas toute la féerie de Noël. Il y aura quand même des choses sur la place des Cocotiers. Et l'idée, c'était d'associer les artisans pour une première fois pour pouvoir leur permettre de faire découvrir leurs produits et d'avoir des ventes et que les Calédoniens achètent des produits fabriqués localement par nos artisans. Alors on retrouve plein de produits artisanaux qui passent par des bijoux, par de la cosmétique, par des bougies, par de l'alimentation. Tous les produits, les divers produits de l'artisanat que nous connaissons au quotidien. Donc venez sur cette place des Cocotiers, nous sommes là tous les jours.
Pour le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, ce marché de Noël est l'occasion d'aider les artisans locaux.
Ça ne doit pas être seulement une première et parce qu'on pallie à la carence de la féerie. Je crois que dans la féerie de Noël, les artisans ont toute leur place sur cette place de la Marne. Donc j'espère qu'on pourra continuer dans les années à venir et à les intégrer quand on pourra financièrement refaire la féerie de Noël qui a attiré 40 000 personnes sur le mois, avec beaucoup, beaucoup de monde chaque soir. Voilà. Ils ont toute leur place. C'est une vitrine des savoir-faire. Et puis, cette période, elle est propice, hein,
C'est le moment du partage et le moment des cadeaux. Donc voilà, il faut que les Nouméens viennent. Je crois que c'est une reconnaissance aussi par rapport aux artisans qui, pour beaucoup d'entre eux, ont beaucoup souffert pendant les périodes qu'on vient de vivre. Et puis, il faut qu'on aille de l'avant. On ne se lamente pas sur notre sort. C'est comme ça qu'on y arrivera. Hein.
Les visiteurs étaient déjà nombreux à profiter des 25 à 30 exposants proposés sur la place de la Marne.
C'est magnifique, ça rappelle la saison de Noël et puis le partage. Il y a des choses magnifiques, les artisans sont accueillants, chaleureux et il y a de multiples choix pour les cadeaux de Noël. Les planches en bois gravées là-bas de l'autre côté, là le bracelet en pierre qui est magnifique. Puis des bijoux, des vêtements, non c'est magique.
Il y a de beaux produits et c'est l'artisanat local. Il y a plein de belles choses à voir, il faut venir. Alors là je suis sur un fabricant de tisane locale, de la production à la fabrication, il fait tout lui-même. C'est abordable, donc ça fait toujours des petits cadeaux qui font plaisir.
Petits cadeaux pour Noël, les enfants, la famille, tout ça. Et ben justement, un collier, peut-être qui était bien, puisque c'est un collier réglable, ils appellent ça un collier nœud de cravate, avec une perle qui se règle. Suivant les sorties que la dame veut faire, elle peut se régler comme elle veut. C'est formidable.
Je trouve que c'est une bonne idée de faire un peu des activités et puis de permettre aux gens de sortir. Des idées de cadeaux pour Noël, des bijoux, c'est artisanal pour privilégier l'emploi local.
Le marché de Noël artisanal, c'est de 16h30 à 21h jusqu'au dimanche 22 décembre et de 14h à 21h le lundi 23 décembre, place de la Marne. Et notez que les spectacles sont présentés à 18h tous les soirs au kiosque à musique.
Hier, ce sont les communes de Païta et de Dimbéa qui organisaient leur marché de Noël. Notez encore que ce dimanche, la Spank organise une brocante solidaire de 8h à 14h à son refuge de Coutio. C'est également aujourd'hui le dernier marché de Mamie, cette année à Farino, sur l'esplanade de la mairie de Farino jusqu'à midi.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et Noël, c'est aussi sur RRB avec notre opération Au cœur de Noël, lancée depuis 2 semaines maintenant. Tous les dons que vous nous apporterez seront redistribués avec l'aide de la Croix-Rouge, du Secours catholique, de la Société Saint-Vincent de Paul et de la Table ronde française aux familles dans le besoin et notamment celles qui ont été touchées directement par la crise insurrectionnelle. Au cœur de Noël sur RRB pour que cette année encore, Noël soit une fête pour tous.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Wailou, Ponériouin, c'est le 99.
Dans le reste de l'actualité en Calédonie, la vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam en visite officielle sur le territoire, Ang Li Ti Tu, a pu échanger hier avec les différentes institutions. Vous avez pu l'entendre dans nos précédentes éditions. Hier soir, elle a rencontré la communauté vietnamienne de Nouvelle-Calédonie au foyer vietnamien de Tina, accompagnée de Thong Tin Tuan, l'ambassadeur du Vietnam en France. On l'écoute.
On a pu constater que la communauté vietnamienne ici en Nouvelle-Calédonie sont bien intégrées à la vie locale et ils ont aussi pu contribuer au développement économique de la Nouvelle-Calédonie. On a pu constater qu'il y a aussi des perspectives de coopération entre la Nouvelle-Calédonie et le Vietnam sur plusieurs domaines. On peut renforcer les échanges commerciaux. Par exemple, il y a un besoin de riz en Nouvelle-Calédonie. Le Vietnam exporte beaucoup de riz. Et on peut aussi travailler sur l'agriculture parce que le Vietnam maintenant excelle dans cette production pour aider la Nouvelle-Calédonie à développer ce domaine-là. Et on peut aussi travailler sur la question de biodiversité parce que c'est aussi le besoin. Il y a beaucoup de choses à faire.
Pour la communauté d'origine vietnamienne installée en Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs générations, cette visite est une forme de reconnaissance.
C'était un honneur pour nous tous vietnamiens, mais surtout elle nous a apporté beaucoup de choses, des livres en vietnamien pour les cours de Viet. Donc c'est une continuité pour l'amicale. Pour la culture, tout ça, ben, sa présence ici, c'est pour nous, c'est une assurance d'abord. Ça nous rassure et que la langue vietnamienne va pouvoir, c'est-à-dire que dans la communauté, on va pouvoir persévérer cette langue. notre langue maternelle.
Ça interpelle et ça fait un plaisir de voir que notre pays d'origine s'intéresse à nous. C'est un privilège de les avoir ici, quoi. Pour un Vietnamien de troisième génération, je trouve ça vraiment touchant ce rapport avec ce pays. Pour nous, est loin, d'un point de vue temporel, mais aussi générationnel.
Ça représente beaucoup pour les Vietnamiens, surtout pour la culture. Et puis là, il va beaucoup nous aider aussi pour la langue, aussi, parce qu'on a un prof vietnamien.
Des propos recueillis par Kéline Dabouakou. Notez qu'hier, un temps de recueillement était également organisé au monument des Chandang, les premiers Vietnamiens arrivés sur le territoire dans le quartier asiatique. Pour les passionnés d'histoire et d'objets du passé, la deuxième édition du Salon des Antiquités se poursuit aujourd'hui dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa. Parmi les exposants, le président de l'Association calédonienne des amateurs d'objets de collection, Jacques Esposito.
Il y a des visiteurs qui viennent pour voir de beaux objets, qui se font plaisir. Que le budget est un peu restreint.
Alors là, qu'est-ce que l'on peut voir
Alors aujourd'hui, nous avons donc nos 25 exposants qui ont présenté pour la plupart des objets liés aux antiquités et à la belle brocante et quelques stands de collectionneurs donc, qui sont connus sur la place. Donc on retrouve les petites voitures, on retrouve les coquillages, on retrouve les livres. Avec du militariat parmi les collectionneurs. Et après, sinon, surtout des gens qui présentent des objets d'art décoratif.
Qu'est-ce que l'on peut voir sur votre table ?
Ben là, vous pouvez voir pas mal d'objets de vitrine et des objets publicitaires liés au débit de boissons et quelques cloisonnés. Ce sont des petits pots et petites boîtes en cuivre émaillé qui sont fabriquées en Chine pour la plupart. Et après, on a de beaux vases japonais et un ensemble de cheminées, pendules, plus deux bougeoirs.
La deuxième édition du Salon des Antiquités, des objets de collection et du vintage. Ça continue donc ce dimanche de 8h jusqu'à 17h dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa. Il est 7h passé de 22 minutes. Une dernière page de publicité avant de voir tout le sport.
Mardi 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales Noël sur la page Facebook Le Fun.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Week-end, c'est du sport, Michael Juneski.
Le sport avec de la natation pour commencer. Maxime Grousset brille dans les bassins de Budapest, Lionel Sabot.
Effectivement, puisque le Calédonien est devenu très tôt ce matin pour nous vice-champion du monde sur le 100 mètres papillon en petit bain. Avec un chrono de 48-57, il a même amélioré très nettement son propre record de France. Maxime Grousset a été devancé par le Suisse Noé Ponti qui a battu le record du monde de la distance en 47 secondes 71. Rappelons que la précédente marque mondiale appartenait à l'Américain Caleb Dressel en 47 78. Avec cette médaille d'argent, Maxime Grousset apporte à la France sa quatrième médaille dans la compétition. Grâce à cette performance, le nageur calédonien de 25 ans entretient une très belle série en pochant une médaille lors des 7 derniers championnats internationaux de Budapest en 2022 à Budapest en 2024. La boucle est bouclée. En passant par, bien évidemment, les Jeux Olympiques de Paris cette année et une médaille de bronze sur le relais 4x100 mètres 4 nages aux côtés de Léon Marchand, Johan Ndoye-Brouard et Florent Manodou.
Les sports collectifs à présent du football et la suite de la 15e journée du championnat de France de Ligue 1.
Et arrêt buffet pour l'Olympique de Marseille ce matin pour nous. Les Phocéens recevaient Lille pour un choc contre équipe du top 5 de notre championnat. Les Marseillais ont très vite ouvert le score par Quentin Merlin dès la 17e minute de jeu, mais les Lillois qui ont globalement dominé la rencontre n'ont rien lâché sur la pelouse du Vélodrome. Les Dogs ont finalement arraché le match nul, un but partout, grâce à un but du défenseur Diakité à la 87e minute de jeu. Les Marseillais ont raté l'occasion de combler l'écart avec le leader, le Paris Saint-Germain, qui jouera demain matin pour nous. Ce sera face à l'Olympique Lyonnais. Deux autres matchs ce matin. Auxerre et Lens se sont quittés il y a quelques minutes sur un match nul, deux buts partout. En ce moment, Reims reçoit Monaco. Il y a 0-0 suite de cette journée demain matin pour nous. À suivre Montpellier-Nice, à Rennes-Angers, Le Havre-Strasbourg, Brest-Nantes et donc Paris-Saint-Germain-Lyon. Un dernier mot à propos de la Ligue 1 pour vous signaler que l'AS Saint-Etienne s'est séparé de son entraîneur Olivier Dalloglio, décision qui intervient après la défaite des Verts hier matin sur la pelouse de Toulouse de Buzyn. C'est Laurent Houillard, le directeur du centre de formation, qui va assurer l'intérim avant la nomination d'un nouvel entraîneur.
Allez, on passe au rugby avec la suite de la deuxième journée de la Coupe des Champions. Trois clubs français sur les pelouses européennes aujourd'hui.
Et la bonne opération du jour dans cette compétition pour l'Union Bordeaux-Bègles, l'UBB, qui est allé s'imposer 40-19 sur la pelouse de l'Ulster. C'est en seconde période que les hommes de Yannick Bru ont construit leur victoire en inscrivant 4 essais. Nouvelle victoire bonifiée pour l'UBB qui prend la tête de son groupe. Clermont jouait également ce matin en déplacement sur la pelouse de Leinster et les choses ne se sont pas bien passées pour les Auvergnats qui sont inclinés 15-7. En ce moment, La Rochelle reçoit Bristol. Il y a 0-0.
Les sports d'hiver, le biathlon également avec la suite de la Coupe du Monde.
Ouais, les Français qui sont décidément très en forme ce week-end à Hochfelsen en Autriche, on courait la poursuite dames avec la victoire de la Française Lou Jean Monod. Elle a devancé deux Allemandes, Vanessa Voigt et Franziska Preus. Et puis chez les messieurs, et toujours en poursuite, c'est le Norvégien Johannes Bø qui s'est imposé. Il a devancé le Français Emilien Jacquelin et un autre Norvégien, Sturla Lagreid.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
En Calédonie, le dernier concours de pêche au gros de l'année se déroulait hier, le Simrad Big Game Classic avec le CNC. L'équipage de Dark Knight et son propriétaire Vincent se sont imposés avec un marlin de 95 kilos. Ils ont pu savourer le passage de cette belle prise devant le public venu en nombre.
Aujourd'hui, on a eu de la chance. Bonne journée, bonne ambiance. C'était allé, ce qu'il fallait, quoi. Oui, voilà, très content. Bah, c'est mon premier, je suis content.
Les concours de pêche au gros, cette année, ça a été compliqué. Heureusement, il y a celui-là pour finir en beauté. Ça représente quoi à vos yeux?
Oui, ça permet de se retrouver. Surtout, moi, je suis en brousse, donc les copains, on ne les voit pas trop. Donc après, c'est, voilà, c'est une manière de se retrouver, partager un moment de convivialité, quoi.
Et voilà, 295 kilos validés.
Le Simrad Big Game Classic, concours le mieux doté du territoire, qui représentait également la dernière épreuve de l'année, alors que le calendrier a été largement contraint en 2024 en ce qui concerne la pêche au gros. Duva également hier avec la dernière compétition de la saison au large de Lansvata, les championnats de Calédonie V6 mixte longue distance, un bal de fin d'année pour les meilleures rameuses et rameurs. Sur 15 km, le club des îles Soulevent a trusté les deux premières places sur le podium, alors que l'équipage de Toapin a terminé troisième. Le championnat de Calédonie d'haltérophilie. Hier, à l'Institut d'haltérophilie du Mont d'Or, on signalera notamment les titres décrochés par Demi Dabin et Sylvain Duclos chez les seniors, mais aussi les minima pour les championnats de France junior de Mathis Sacco chez les moins de 15 ans ou encore Danmei Regnat chez les moins de 17 ans. En windsurf, aujourd'hui, c'est le One Hour Classic qui fera son retour. Une dernière compétition de l'année organisée en hommage à Mimi Berthomier. Ça se passera à la Côte Blanche. Et puis, du basket 3 contre 3, ça continue à Nouméa aujourd'hui encore. Un terrain amovible est installé depuis vendredi sur les quais ferrés. Ça vaut le détour. Il restera sur place encore jusqu'à 16h cet après-midi. 7h passées de 28 minutes, l'heure de votre bulletin météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Une météo que vous nous détaillez, Nicolas, bonjour.
Bonjour Michael. Alors ce matin, sur la pointe nord et la façade est, les nuages seront assez nombreux et des averses parfois fortes voire orageuses se produiront. Ailleurs, le temps sera sec, sous un ciel souvent voilé en altitude. Le vent de secteur nord-est sera dominant, généralement proche de 10 nœuds. Il atteindra localement les 15 nœuds aux pointes de la Grande Terre. L'ouest sera souvent déventé. Cet après-midi, au fil des heures, les nuages qui se formeront sur la chaîne donneront des averses qui finiront par déborder vers la façade ouest et le nord-est. Des averses prendront également un caractère orageux, ce sera localement. Sur l'ouest, les brises se maintiendront autour de 10 nœuds. Ailleurs, le vent de nord-est soufflera entre 5 et 10 nœuds. Localement, 15 nœuds aux pointes de la Grande Terre. Les températures maximales baisseront légèrement sur l'extrême sud et le sud des Loyautés, entre 28 et 30 degrés. Ailleurs, elles resteront élevées avec 31 à 34 degrés, notamment sur l'ouest, Michael.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est avec vous que se referment les pages de ce journal. Prochain point sur l'actualité à 8h. Prochain journal à midi. En vous souhaitant de passer un excellent dimanche, toujours à l'écoute de Radio Rythme Bleu.